Gloria in excelsis Deo.
Nous sommes au Bus Cartouche ce vendredi 20 avril et nous allons parler de l'ensemble Morsos. Alors ça implique que l'on parle de quelques petites choses avant, que l'on précise certaines choses et notamment peut-être allons-nous parler pour commencer en quelques mots de la Bolivie, quel est ce pays, où se situe-t-il et quelles en sont les images d'Épinal et les réalités. Alors Vilma, bienvenue à toi, nous nous connaissons,
on a déjà eu
la chance de se rencontrer à plusieurs reprises. Tu as beaucoup de casquettes, hein, dont celle du collectif Amérique latine Résistance au pluriel.
Oui.
Voudrais-tu nous dire quelques mots d'ores et déjà de la Bolivie, puis ensuite on entrera plus en avant,
oui,
jusqu'aux provinces de Moxos et à l'ensemble, en particulier l'ensemble musical Moxos.
Bon, alors bonjour et merci William de ton accueil, toujours chaleureux. La Bolivie se trouve au centre de l'Amérique du Sud, mais je dis bien de l'Amérique du Sud, mais dans le sens que la plupart des gens disent ici, l'Amérique du Sud, en parlant aussi du Mexique, du Guatemala. Non, s'il vous plaît. Quand on parle du Mexique, du Guatemala, c'est l'Amérique latine, l'ensemble. Et le Guatemala est en Amérique centrale, le Mexique est en Amérique du Nord et la Bolivie en Amérique du Sud, au cœur de l'Amérique du Sud. Alors, on parlait de cette image construite de la Bolivie où on voit que des montagnes et où il fait froid. Et je disais que c'est à peine les 17% de la surface, ces montagnes. Il y a deux chaînes de montagnes, très hautes bien sûr. Mais il y a les 75% de plaines tropicales. Et l'Amazonie traverse la Bolivie aussi. Et dans cette Amazonie tropicale qui est tellement lointaine, même pour les Boliviens, parce que la plupart des gens ne connaissent pas tout leur pays, c'est immense, ça fait 25 fois la Suisse au niveau surface, 2 fois la France, alors voilà. Et souvent j'entends dire à la radio, à la télé, les journalistes répéter ce petit pays. Et je rigole intérieurement parce que je me dis, mais petit pays, mon œil. Et voilà, la Bolivie est grande et très peu peuplée, à peine 10 millions d'habitants, peut-être bientôt 11 millions. Et les régions tropicales sont les moins peuplées et les plus éloignées. Et il y a des endroits comme le Beni, au Pando, 2 départements, où on n'accède qu'en avion. Alors c'est vraiment difficile d'y aller. Ou bien on peut aller par les rivières et ça prend mais des semaines de voyage. Et Santa Cruz, oui, on peut accéder en avion. Elle est devenue la ville la plus importante de la Bolivie économiquement et aussi au niveau des affaires de cocaïne parce qu'il y a une bourgeoisie agro-industrielle puissante et des mafieux très puissant. Tout ça est né avec l'ancien dictateur Banzer, les années 70. C'est lui qui a instauré cette industrie du trafic de drogue au niveau industriel, parce qu'avant c'était très artisanal. Bon, voilà le cadre. Maintenant, on ira dans le département du Beni, d'où vient cet ensemble de musique. Il faut faire une petite précision. Au XVIIe et XVIIIe siècle passé, quand les jésuites sont arrivés en Amérique latine, ils se sont établis dans plusieurs pays où se trouve l'Amazonie. En Bolivie, c'était dans 2 régions, la région de Chiquitos, qui se trouve dans le département de Santa Cruz, et la région de Morros, qui se trouve dans le département du Beni. Alors, la région de Chiquitos, la Grande Chiquitania, comme on appelle, est plus connue que Morros, parce que comment elle se trouve dans le département de Santa Cruz, qui est maintenant le département le plus puissant, ou qui attire aussi pas mal de tourisme. Dans cette région, en plus, se fait chaque 2 ans un festival de musique baroque international. Alors, bon, c'est très connu, Chiquitos, et aussi à cause des églises construites à l'époque par les jésuites et les peuples originaires. Et c'est des églises, mais d'une beauté inouïe, et toutes inscrites au patrimoine de l'humanité, à l'UNESCO. Alors, ça, c'est Chiquitos, mais Mojos est resté encore presque oublié, délaissé, parce que c'est beaucoup plus loin. Et la région de San Ignacio de Mojos, c'est une petite ville, c'est le chef-lieu de la région, parce que la capitale, c'est Trinidad. Parce que quand on arrive à Trinidad, il faut encore voyager beaucoup pour arriver à San Ignacio de Mojos. Alors, dans cette région du Beni, c'est le seul endroit qui a survécu au passage du temps, parce qu'il y avait 2 autres missions établies par les jésuites. Mais elles ont disparu, et surtout à cause des inondations, parce qu'il y a des gros fleuves par là, mais vraiment à l'époque des pluies, alors tout est complètement inondé, les gens sont incommuniqués carrément. Alors il y a eu 2 missions qui ont disparu, mais il reste San Ignacio de Mojos, qui a encore son église. Et tout près, il y a un parc national. Et il y a un territoire indigène qui s'appelle Tipnis. Ce sigle correspond à territoire indigène, parc national Isiboro-Secure. Isiboro-Secure sont les 2 rivières qui traversent ce parc. Alors, ils ont été reconnus comme parc national et comme territoire indigène après de très longues luttes qui durent depuis les années 50. Hein. Alors ça fait qu'à travers plusieurs gouvernements, les peuples originaires qui habitent cette région ont dû se battre. Et quel a été le moyen de se battre? C'est une lutte évidemment pacifique, mais en faisant des marches. Des marches depuis, imaginez-vous, depuis Beni, depuis cet endroit San Ignacio de Mojos, à pied jusqu'à La Paz. À pied. Et en plus, il ne faut pas oublier que c'est des peuples nomades et semi-nomades. Alors ça veut dire que quand ils font une marche, ils font la marche avec toute leur famille. Alors, ils ont fait 9 marches de protestation pour défendre leurs droits. Quand on pense qu'il y a des étrangers qui arrivent en Bolivie, qui font copain-copain avec les gouvernements, qui reçoivent quasiment gratuitement des terres, des gros territoires, et ces peuples originaires, qui sont les vrais propriétaires de ce pays, ils n'ont pas droit. Alors ça leur a coûté 9 marches, 2 marches sous ce gouvernement qui se dit défenseur des peuples originaires. Malheureusement, 2 marches sous ces gouvernements. Chose inouïe, parce que avec tous les autres gouvernements depuis les années 50, il y a eu 7. Et sous le gouvernement défenseur des droits des peuples originaires, 2. Et ils sont sur le point d'être décimés parce que le gouvernement veut à tout prix construire une route qui va diviser en 2 les parcs nationaux. Là-dedans, il y a 3 ethnies et 66 communautés, nomades et semi-nomades. Pourquoi je parle de gens du Tipnis? Parce que c'est le réservoir de la musique baroque qui a été gardé jalousement, amoureusement par ces peuples. Parce que bon, à San Ignacio de Mojos, il y a une école de musique qui aujourd'hui est devenue un institut supérieur de musique. Et dans cette institution, il y a une directrice très active qui a pris à plein le cœur le travail de récupération de cette musique et la formation professionnelle des enfants et des jeunes de la région. Alors, elle organise régulièrement des sorties, parce qu'il faut aller en bateau, hein, au canoë même, et voyager pendant des jours avant d'arriver, de trouver une communauté. C'est vraiment la forêt, il y a les piranhas, il y a des crocodiles, mais vraiment c'est la forêt tropicale, quasiment vierge, qu'on veut détruire, parce que c'est des forêts primaires. Hein. Alors, elle organise ses sorties pour aller visiter ces communautés. Ils ont déjà établi des très bons contacts, des échanges. Elle a même trouvé des ensembles, des groupes de musique que depuis toujours, depuis le départ des jésuites, ils ont continué à se cacher parce qu'ils se sont cachés là. C'est pour ça qu'ils ont pu préserver cette musique et ils ont pu survivre. Ils se sont cachés là parce qu'on allait là. Alors voilà. Et alors, elle a établi ses rapports de confiance, d'amitié et d'échange. Là, elle a pu récupérer des tas de partitions parce que ces familles-là, ils ont copié et recopié les partitions en faisant des petits dessins, quoi, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont analphabètes ou bien des gens qui ne savent plus lire la musique. Mais il reste quelques-uns qui sont les descendants des anciens maîtres des chapelles, des jésuites. Alors, voilà. Tout ce petit monde vit là et Raquel Maldonado, la directrice, va avec les élèves, avec les professeurs de l'Institut supérieur de musique récupérer ça. Ils ont récupéré pas mal. À chaque concert, ils présentent toujours de nouvelles pièces de musique qu'ils ont récupérées, qui se sont transmises soit par ces partitions copiées et recopiées à l'infini ou par la tradition orale. Parce que ces musiques-là font partie maintenant du patrimoine festif des villages. Parce qu'il y a toujours des fêtes dans les villages, les fêtes patronales. Alors, dans ces fêtes patronales, ces peuples originaires interprètent cette musique. Qui est, ce n'est pas tout à fait la copie de la musique apportée par les jésuites. Parce qu'il y a un nouveau baroque métis qui est né. Parce que ça s'est mélangé entre la musique européenne apportée par les jésuites et les traditions millénaires, parce que c'est des peuples millénaires. Les traditions millénaires de ce peuple-là, qui au niveau artistique sont incroyables, parce qu'ils ne jouent pas que de la musique, aussi l'architecture et la peinture, qui ont affiné, on peut dire, avec l'arrivée de ces jésuites.
Hein? Comment est-ce que c'est perçu en Bolivie même, cette tournée, par exemple, l'ensemble Morros et toute cette musique que l'on pourrait dire, comme tu l'as dit d'ailleurs, patrimoniale du pays? Est-ce que justement elle est reconnue, ou est-ce que là aussi il y a une certaine méfiance ou un certain déni qui apparaît? Et puis on va tout de suite ensuite annoncer les dates des concerts à Genève, parce que oui, c'est tout soudain.
Oui. Alors, il faut dire qu'en Bolivie, parce que bon, moi je connais très bien l'Amérique latine, j'ai voyagé un peu partout, et il faut dire qu'en Bolivie, malgré le racisme toujours latent, malgré les classismes toujours latents, il ne faut pas oublier que la Bolivie a une majorité de populations originaires. C'était autrefois presque les 90%, mais maintenant c'est les 75%. Toujours, on peut dire, vraiment d'origine ancestrale. Alors, ça fait que tous ces peuples-là, parce qu'il y a des peuples dans les hautes montagnes, il y a dans les vallées et ces plaines tropicales, ces peuples-là ont gardé leurs traditions, leur musique, qui a été régulièrement enrichie par les nouvelles générations. Et finalement, ils ont réussi, bien que les citadins des villes, je crois, ils ne se sont même pas rendus compte, ça s'est fait naturellement, bien que parfois ils méprisent les peuples originaires. Mais au fond, tout le monde aime la musique, parce qu'il y a différentes manifestations de musique. C'est incroyable la richesse qu'il y a au niveau musique en Bolivie, parce qu'il y a eu l'apport des peuples, tous ces peuples originaires, l'apport de la colonisation et les apports de l'Afrique aussi, parce qu'il y a une population afro-bolivienne aussi. Alors, ça fait qu'il y a une richesse qui a, on peut dire, gagné son terrain dans les villes. Alors, même les plus bourges, ou bien les, ceux qui méprisent le plus les peuples originaires, ils aiment la musique, ils aiment cette tradition dans les fêtes, même les fêtes des familles. Il y a la musique moderne, la musique qu'on écoute partout dans le monde, mais il y a toujours un moment pour la musique traditionnelle. Alors ça fait qu'il y a des groupes de musique qui sont internationalement connus, comme le Scarcas par exemple, ou bien Savia Andina, Savia Nueva. C'est des groupes connus surtout en Amérique latine et où il y a des foules qui se déplacent, même à Buenos Aires, qui se croit tellement européenne, et européen à Buenos Aires, et l'Argentine, bon bref. Alors là, moi j'étais complètement surprise de voir mais des milliers de personnes aller à des concerts, des groupes de musique traditionnelle bolivienne. Hein. Bon. Tout ça pour dire que malgré tout, cette musique a gagné tous les espaces de la société. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a des tas d'expressions massives de fêtes comme le carnaval d'Oruro qui a été aussi reconnu par l'UNESCO comme bien de l'humanité, le bien oral de l'humanité. Et il y a des tas d'autres fêtes de ce style-là.
Donc il y a une vraie reconnaissance et à l'intérieur,
oui,
et à l'extérieur.
Oui, et alors, et c'est surtout, je crois que c'est important qu'à l'intérieur, on le reconnaisse. Parce que je vois par exemple qu'au Pérou, il y a toujours un mépris total des populations indigènes. À Lima, mon Dieu, ils se croient tous descendants de, oui, des Espagnols directs, hein, voilà. Et c'est dommage parce qu'ils méprisent la musique. Les Péruviens disent la Sierra pour dire les hauts plateaux. Et alors, il y a un peu toujours, on peut dire, un divorce, quoi, c'est triste. Et la population afro-péruvienne, on peut dire qu'elle est même presque plus nombreuse que la Bolivie, et ils sont complètement ignorés, et ils ont une richesse aussi extraordinaire.
Absolument. Alors, on va d'ores et déjà dire le lieu et les dates de ces concerts. Donc ce sera le dimanche 22 avril à 17h, ainsi que le lundi 23 avril à 19h à Genève au Temple des Eaux Vives. Donc ça se situe place de Jargonne en numéro 5 à Genève. Les tarifs sont de 20 francs. Il y a des réductions pour les étudiants AVS AI à 15 francs. Donc c'est l'ensemble Morros, hein, musique baroque de l'Amazonie bolivienne, des concerts-spectacles. Passion Morros, hein, et on va revenir sur le mot passion. J'aimerais juste également revenir en deux secondes sur le nom du village, de la ville dont l'ensemble vient. Donc c'est San Ignacio
de Morros.
Ignacio de Loyola, j'imagine.
C'est oui, Jésus, c'est San Ignacio.
Oui. Voilà. C'est un héritage vif et bienveillant qui s'est fondé là.
Bon, il faut dire que dans cette histoire noire de la colonisation, hein, le petit point de lumière, ce sont les jésuites. Parce que ces jésuites, en plus, ceux qui sont arrivés, surtout en Bolivie, hein, ce n'étaient pas des Espagnols. C'était surtout des jésuites d'Afrique centrale. Il y avait beaucoup d'Autrichiens, d'Allemands, d'Italiens, beaucoup de... oui, et ça c'est le sud, l'Italie, mais la Belgique et la Suisse. La Suisse, il, Martin Schmidt était un lucernois des bars. Qui était parti avec tous ces jésuites, des Allemands aussi. Et lui, il a écrit pas mal de morceaux de musique qui se jouent toujours aujourd'hui. Et il y avait des architectes suisses aussi. Et c'est lui qui a mené à bien la rénovation de toutes les églises dans la région de Chiquitos. C'est Hans Roth aussi, en Suisse. À tel degré, ce Suisse, Hans Roth, qui était arrivé comme moine jésuite, hein, mais il s'est marié avec une infirmière bolivienne. Et il est resté plus de 30 ans et il est décédé il y a 2 ans, je crois. Et son fils, qui est aussi architecte, continue les travaux de son père.
Donc là, on peut vraiment parler d'une assimilation
totale. Et alors, pour dire que ces jésuites aussi, c'était des jésuites qui sont arrivés avec les idées des années vraiment qu'il y avait ici en Europe, hein, ces idées des utopies. Eux, ils sont arrivés avec ces bagages des Lumières. Hein. Et alors, ils ont vraiment créé des sociétés utopiques. Et ils ont tellement défendu ce peuple, même ils ont pris les armes pour le défendre des esclavagistes, parce que les esclavagistes faisaient des incursions dans toute l'Amazonie pour aller chercher des esclaves, pour les amener dans les mines de Potosi pour exploiter l'argent. Alors, c'est un bon exemple, le film Mission. Ça montre vraiment ce qui s'est passé. Et pour la petite histoire, ce film se base sur une pièce de théâtre qui a été écrite par un Autrichien qui était établi à Zurich. Et cette pièce de théâtre a été écrite fin des années 40, après la guerre, donc. Et cet Autrichien établi à Zurich avait cette pièce de théâtre. Et voilà, l'Anglais là, qui a tourné son film Mission a pris cette pièce de théâtre, les films. Oui. Ouais.
Parmi les résultats que l'on a de cette assimilation, de cette rencontre heureuse, eh bien,
n'est pas une assimilation.
Non, c'est vrai, justement, j'allais reprendre le mot. De cette rencontre heureuse, justement, parce qu'effectivement, là, on ne peut pas parler d'assimilation, eh bien, on a cet ensemble morose avec des instruments qui se rencontrent là aussi, et ça, c'est incroyable. Une viole de gambe, un violoncelle, à côté des flûtes traversières, à côté d'instruments traditionnels. Ça, c'est quelque chose qui est très singulier, ou y a-t-il d'autres ensembles qui ont pris ce chemin-là? Ou c'est vraiment l'ensemble morse?
Ah non, tous les ensembles de Chiquitos ont ça. Vrai. Et aussi, il faut dire que le violon, par exemple, c'est très, très utilisé dans la région du Chaco en Bolivie, toute la région des Tarija, c'est une région productrice de vin, hein, des très bons vins. La musique traditionnelle populaire est jouée avec des violons. Toujours, depuis toujours, c'est eux qui construisent leurs violons. Et là, dans la forêt amazonienne, à Chiquitos et à Moros aussi, ils ont leurs luthiers qui ont toujours construit leurs violons avec les bois de la forêt. Ils connaissent très bien, ils font chanter la forêt, en fait.
Exactement. Hein?
Alors, et aussi, tu m'avais demandé le nom de San Ignacio de Moros. San Ignace, les jésuites, donc, et leur fête patronale plus importante, c'est la date de naissance de San Ignace, le 31 juillet. Alors, et aussi, à San Ignace, Moros vient du nom c'est l'ethnie du peuple originaire Moros. Hein,
ouais. Qui a donné le nom à la région, en fait.
Oui,
c'est la région.
Fait que, voilà, alors voilà, et alors la musique, et tu parlais des instruments, là, ici on voit sur la photo, cet instrument-là s'appelle bajón. C'est des instruments pour faire les sons gras. Oui, et parce que ça remplaçait un peu le son de l'orgue.
D'accord.
Et c'est très mobile et c'est construit d'un palmier qui existe dans la région amazonienne. Et il faut dire que cet instrument a des origines mais très anciennes. Il existait toujours quand il existait déjà quand les jésuites sont arrivés. Et alors, comment il y avait cet échange respectueux aussi entre ces deux mondes? Alors, les jésuites ont inclus à l'époque le bajón dans les ensembles de musique.
Et puis alors voilà, cet ensemble, là sur la photo on en voit un certain nombre, est-ce que ce nombre est stable ou de temps en temps plus de personnes arrivent,
moins
de personnes sont présentes?
Alors il y a ici un ensemble vraiment minimum on peut dire, parce qu'il faut penser que venir de si loin ça coûte très cher. Et eux, ils viennent plutôt pour récolter de l'argent pour faire vivre l'Institut supérieur de musique, pour continuer à former les jeunes et les enfants de la région qui appartiennent à des familles très démunies, parce qu'il ne faut pas oublier que cette région est sous la mainmise, on peut dire, de gros propriétaires terriens qui ont de bétail, des terres pour cultiver, et maintenant de plus en plus les soja transgéniques, malheureusement. Alors ça fait que ces populations deviennent des sortes de travailleurs mal payés pour ces gros propriétaires terriens. Et en plus, s'ils font ces travaux ou bien ils deviennent des vendeurs ambulants. Toute cette veine artistique est perdue, malheureusement. Et c'est grâce à une sœur espagnole que l'école de musique est née, hein, à 1995. Elle se disait, mais il y avait toujours les vieux monsieur qui chantaient dans l'église. Mais elle se disait, il y a peu de jeunes, et qu'est-ce qu'il va se passer quand tous ils vont mourir, cette musique va se perdre. Et alors c'est là qu'elle a eu l'idée de créer une école de musique. Elle était musicienne à la base. Alors elle a créé cette école de musique, et après il y a eu une musicienne de Santa Cruz, chef d'orchestre, qui est venue pour s'occuper des enfants. Et après elle devait partir aussi, et il y a eu une autre qui est venue de La Paz. Et c'est celle qui est restée maintenant et qui s'est établie là. Elle s'est mariée, elle a des enfants. Et elle mène, mais vraiment avec main de maître, ce bateau de musique baroque.
Alors c'est de la musique et c'est vraiment une expérience de vie, on peut le voir. Hein.
Ah oui, parce qu'il y a aussi de reconnaissance de leurs droits en tant que peuples originaires, et de leurs droits aussi à l'art, des droits au beau, à la beauté, hein, parce que on renie ses droits aux pauvres,
oui,
aux peuples originaires qui sont mais la mine d'or pour créer toute cette ces musiques.
Alors là, il s'agit de la 7e tournée et la 3e fois que
ici à Genève.
S'arrête à Genève.
Oui.
Donc c'est en même temps rare, hein, puisque 3 c'est bien, mais c'est pas si souvent que ça. Donc c'est pour ça que nous, on en appelle à toutes les personnes qui vont écouter cet entretien à se rendre donc le dimanche 22 avril à 17h ou le lundi 23 avril à 19h au Temple des Eaux Vives. On le rappelle, hein, c'est Place de Jargonan numéro 5. Alors, comment se passe cette tournée et quelle sera la suite après les dates de Genève?
Ah oui. Alors, l'ensemble est déjà arrivé il y a 10 jours. Ils sont arrivés à Madrid. Ils arrivent toujours à Madrid, là ils louent un car, parce que c'est plus simple pour eux, à cause des instruments, de voyager, de faire la tournée en Europe, parce qu'ils visitent quasiment toute l'Europe. Et alors ils ont commencé en Espagne, et ensuite ils sont venus en Italie, maintenant, et cette semaine ils sont en Italie. Et mardi passé, ils ont participé à une audience publique avec le pape, parce que le pape est jésuite, hein, et en plus, qui suit quand même le chemin de la théologie de la libération. Et il faut lire tous les derniers écrits du pape sur l'écologie. C'est très politique, hein. Moi, j'étais vraiment frappée.
Oui.
Alors, ils sont allés et ils ont joué un morceau de musique pour lui. Ils ont offert leur nouvel album au pape. Alors, voilà. Et ils seront samedi à Turin, et dimanche à midi, ils arrivent de Turin. Et
à Genève,
et de Genève, ils partent en Allemagne. Alors en Allemagne, ils ont une réception inouïe. Quasiment dans chaque ville allemande, il y a un concert ou deux de l'ensemble Morose. Et dans l'Allemagne, ils passent en Belgique, à Luxembourg, aussi à Luxembourg, ils font plusieurs concerts, c'est fou, Luxembourg c'est tout petit, mais ils ont un accueil incroyable à Luxembourg, ils disent toujours, mais que là, ils sont toujours frappés de la chaleur des gens. Et ensuite, ils vont venir en France, alors une longue tournée en France, pour retourner en Espagne, et là encore quelques concerts en Espagne, dans des autres villes qu'ils n'ont pas visitées la première semaine. Et de Madrid, ils repartent là-bas. Ça fait 3 mois de concerts quasiment chaque jour. Et comme ils sont jeunes, ils sont heureux. Et c'est leur musique. On le voit, ils sentent cette musique dans leur peau. Alors, ils sont heureux de jouer. Ils pourraient jouer à l'infini sans s'arrêter. Hein.
J'allais t'interroger, Vilma, sur le retour des publics, mais j'ai l'impression que leur cause est acquise. Enfin, en tout cas, que les publics qui les entendent, qui les rencontrent, sont émerveillés. Pourquoi? Pourquoi cet émerveillement? Est-ce qu'ici, en Europe, il nous manque quelque chose qui a trait à la musique et qui dépasse la musique? Est-ce une forme d'une spiritualité qui soit également proche d'une forme de théologie de la libération? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose qui nous manque?
Je crois que c'est un peu de ça ce que tu viens de dire, hein. Cet esprit de théologie de la libération. Mais qu'est-ce que c'est la théologie de la libération? La théologie de la libération, c'est l'option pour les pauvres. Et option pour les pauvres, qu'est-ce qu'il veut dire? L'option pour les choses simples de la vie. Se contenter des choses simples de la vie, d'un sourire, je te vois sourire, et toujours quand je pense à William, j'ai son sourire comme image, et ça fait chaud au cœur. Et je pense qu'on oublie souvent de sourire gratuitement aux autres, parce que ça ne coûte rien. Et je crois que c'est ça qu'il nous manque. Et cette musique fait appel à ces fibres intérieures que chacun de nous porte en soi. Même celui qui se dit complètement étranger à tout, il a des fibres intimes qui peuvent être réveillées. Et j'ai l'impression que cette musique réveille ça. Parce que, par exemple, quand ils ont joué pour la première fois à Genève, au temple de la fusterie, moi j'étais frappée, mais les gens pleuraient. Mais des Suisses, hein, des gens pleuraient. Et il y a une dame qui vient me dire, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'arrive, mais... Je pleure et je veux continuer à pleurer à chaque fois que cette musique me touche profondément et pourtant ce n'est pas la première fois que j'ai un rapport avec des gens qui viennent de si loin et qui ont à voir avec les peuples originaires de là-bas. Elle disait parce qu'elle avait parcouru le Mexique et là c'est très riche le Mexique. Elle disait mais cette musique... Et dans ces cadres, et je crois qu'il y avait une émotion collective. Et alors, quand c'est collectif, ça se transmet des uns aux autres. Et alors, vraiment, les gens pleuraient.
Alors, je vais citer une phrase que tu citais toi-même il y a déjà quelques années, alors que venait l'Enfant Mort ici en Europe au mois de septembre, à ce moment-là. La citation est la suivante: du baroque comme jamais vous n'en avez entendu ailleurs. Un concert plus que passionnant, passionnel. J'ai eu l'immense privilège de compter parmi les membres de l'heureuse assistance et mourrai, je l'espère, avec dans un coin de mon cœur cette émotion toujours intacte. Voilà, ça c'était une des citations que tu avais recueillies il y a cela quelques années déjà.
Oui, alors c'est une personne qui était là. Je lui dis qu'il m'écrive ce qu'il avait ressenti. Il m'a écrit ça, mais ça veut tout dire, quoi.
Ça résume effectivement tout. Comment est-ce qu'on peut, pour les personnes qui nous écoutent, se procurer la musique pour les personnes qui peut-être pourront quand même pas venir à ces deux concerts-là? Alors effectivement, on a compris qu'il y aura d'autres dates possibles pour les gens qui sont ailleurs qu'à Genève, mais les personnes qui souhaiteraient acheter un album ou trouver cette musique-là, est-ce que ça, c'est
Ah
possible?
oui, c'est possible. Alors ici, tu as l'adresse
Ah oui.
électronique.
Ouais.
On peut s'adresser là, tu peux le dire.
Voilà, donc c'est pour les renseignements, hein, c'est info@nueva-utopia.ch. On mettra le lien bien sûr sur le
Oui.
site de la radio également.
Oui.
D'accord. Et là, alors les personnes peuvent effectivement trouver des renseignements,
Oui.
trouver des extraits musicaux.
Oui, mais parce que nous, on essaye aussi de les aider en vendant leur album de musique. Ils ont déjà 7, je crois, maintenant.
Et y a-t-il également un site, peut-être la page d'Amérique latine Résistance
Oui,
qui
c'est ça.
relaie? Voilà, alors la page Facebook de vous qui les accueillez ici à
Oui.
Genève, c'est Amérique latine Résistance, Résistance au pluriel. Et là, on trouve les dates à Genève et les dates
Oui,
qui vont arriver
oui.
juste derrière.
Oui.
D'accord.
Et voilà, c'est une découverte en tout cas qui ne laisse pas indifférent.
Certainement, ouais, absolument. Et puis, en tout cas, je vous remercie beaucoup, particulièrement Vilma, pour toutes ces informations que tu nous livres à chaque fois que l'on se rencontre. Que faudrait-il leur souhaiter que l'on n'a pas encore fait? Est-ce qu'il faut leur souhaiter bonne route, bon voyage, bonne tournée et bon quoi encore?
Alors là, bon courage pour éviter cette route qui veut blesser de mort le parc national et les territoires indigènes, les Tipnis, parce que malheureusement, le gouvernement et ça, cette attitude m'a complètement révoltée. Parce que, encore, moi, je me disais, c'est difficile de régler un pays après autant des années d'injustice. Mais cette injustice-là, alors là, n'a pas de pardon. Parce que vouloir, tout en sachant ce qu'ils vont devenir, ce peuple, c'est leur disparition, et de vouloir faire quand même cette route. Ces peuples ne s'opposent pas à cette route-là. Ils demandent que la route soit contournée en dehors du parc national. C'est possible, ils l'ont montré. Mais c'est devenu une sorte de caprice personnel du président, malheureusement, qui est en train d'utiliser tous les moyens les plus mauvais et les plus sales qu'autrefois les gouvernements de droite utilisaient pour vraiment piétiner le peuple. Il est en train de le faire et il les a même largement dépassés. Alors moi, je leur souhaite bon courage pour continuer à se battre. Et j'espère de tout mon cœur que cette route va s'arrêter, mais ils ont déjà commencé les travaux. Et le pire, c'est que il y a des affrontements même entre communautés, parce qu'il y a des peuples des hauts plateaux qui se sont installés à l'entrée du parc national. Ils mangent de petit à petit déjà du territoire pour cultiver de la feuille de coca. Et on sait bien que cette feuille de coca ne sert pas à la mastication. Cette feuille de coca est utilisée de façon illégale pour faire la cocaïne, bien que c'est un long processus chimique qu'il faut pour produire la cocaïne, mais ils le font déjà parce qu'autrefois, en Bolivie, on faisait que la pâte base qui était exportée au Pérou, au Chili, un peu partout dans les pays voisins, mais maintenant il y a tout le processus qui s'est fait en Bolivie et il y a ces problèmes-là où il y a de l'argent et il y a de la mort.
Et ça, on sait que vous vous battez beaucoup au sein de l'association justement Amérique latine résistance pour dénoncer cette attaque faite et contrer cette problématique terrible sur laquelle on reviendra certainement
Oui.
ensemble, hein. L'extractivisme, toutes ces enrichissements personnels qui ont cours et malheureusement de plus en plus même par des présidents, en l'occurrence Evo Morales, mais on pourrait citer Rafael Correa, on pourrait en citer
Non,
d'autres
Rafael
qui...
Correa, non. Là, je
C'est
dirais
vrai?
qu'il y a beaucoup d'accusations, de fausses
Ah, c'est pas...
accusations.
Ah bah très bien, on reviendra
Tu
là-dessus
vois,
alors.
non. Lui, il... Mais évidemment, il y a eu ces problèmes d'exploitation aussi dans la région amazonienne, du pétrole et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de communautés originaires équatoriennes qui ont été achetées. Simplement avec le but de descendre Coréen. C'est ça le malheur.
On parlera de tout ça. Alors, ça nous conduira à une émission, je pense, spéciale là autour, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire et vous avez beaucoup de choses, vous, au collectif Amérique latine Résistance, à nous dire, je pense.
Oui.
Très bien. Alors, on va terminer cet entretien en rappelant les dates. Donc, dimanche 22 avril, tout soudain à 17h, ainsi que le lundi 23 avril à 19h. Tout ça, c'est au Temple des Eaux Vives, ici à Genève, précisément à la place de Jargonan numéro 5. Et si des problème surgirait ou des envies d'avoir plus d'informations, eh bien il y a toute la page Facebook du collectif Amérique latine Résistance, on l'a dit, Résistance au pluriel, ainsi que le mail suivant info@nueva-utopia.ch. Un dernier mot pour conclure cet entretien, Vilma?
Oui, alors merci pour l'accueil. Aussi, nous voulons remercier le Temple des Eaux Vives, le pasteur, la secrétaire, le concierge, tout le monde s'est mis en quatre pour nous accueillir. Et bon, on ne se connaissait pas, mais cette idée de recevoir ces jeunes et de découvrir cette musique les a tous mobilisés. Alors vraiment, c'est merveilleux.
Tac 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 à la tac 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 tac, Libre Radio, la radio qui claque, la radio qui contre l'Empire contre contre-attaque.